Ce n'est que par notre sixième sens, la foi, que nous pouvons voir et saisir les bienfaits que Dieu nous offre, tant qu'ils ne sont pas pleinement manifestés. Si nous consultons donc nos cinq sens pour avoir la preuve que notre prière a bien été exaucée, c'est aussi ridicule que d'essayer de voir avec nos oreilles ou d'entendre avec nos yeux. Tous nos sens fonctionnent indépendamment les uns des autres. Vous voyez ce que vous ne pouvez pas entendre, vous entendez ce que vous ne pouvez pas voir, et cetera. Ainsi, ce que vous possédez par la foi n'existe pas encore pour vos cinq sens physiques. Il est important que vous compreniez que si vos sens vous disent le contraire de la parole de Dieu, ce n'est aucunement une raison pour douter. Parce que la foi s'appuie sur une évidence spirituelle qui demeure parfaite. Notre foi n'est réelle que si nous croyons malgré toutes les preuves contraires données par vos sens. Abraham a cru à la parole de Dieu, malgré toutes les impossibilités naturelles que lui montraient ses sens. La foi ne concerne que ce qui n'est pas du domaine de nos sens. Dès que la chose que nous avions saisie par la foi se manifeste à nos sens, la foi disparaît. Dieu œuvre tant que nous restons dans la foi, et tant que nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles de Corinthiens 4, 18, et à Dieu, à ses promesses, à sa fidélité, à sa justice, et cetera. Nous devons garder l'attitude mentale juste. Si nous permettons à nos pensées d'être dominées par nos sens, nous ne pourrons jamais avoir une foi victorieuse. Si nos pensées sont gouvernées par nos sens, nous vivons dans le domaine de l'incertitude. Tant que la parole de Dieu ne prendra pas le contrôle de nos pensées, elles seront entièrement dominées par nos sensations et par ce que nous dirons nos sens. Les pensées et l'intelligence de ceux qui recherchent la guérison divine doivent être renouvelées, pour être mises en harmonie avec la pensée de Dieu, telle qu'elle nous est révélée par la Bible. Si nous gardons l'attitude mentale juste, c'est-à-dire si notre intelligence a été renouvelée Romains 12 2, nous pouvons tous avoir une foi ferme. Dieu guérit toujours chaque fois que nous parvenons à coopérer correctement avec lui. Avoir avant de voir. J'ai mis un jour une certaine somme d'argent dans la poche du manteau de ma femme. Plus tard, je le lui ai dit, et je lui ai demandé si elle me croyait. Elle m'a répondu « Bien sûr, je te crois » et elle m'a remercié pour cela. Elle possédait cet argent avant même de l'avoir vu. Si nous sommes ainsi capables de croire une simple parole d'homme, pourquoi demanderions-nous une preuve visible à Dieu, pour croire qu'il a bien fait ce qu'il a promis? Continuez de croire que Dieu vous a bien donné ce que vous lui avez demandé quand vous avez prié, remerciez-le et louez-le pour ce qu'il vous a donné, et vous verrez toujours la chose s'accomplir. Une telle attitude fait toujours agir Dieu. Tant de personnes attendent que Dieu les guérisse, alors que c'est Dieu qui attend qu'elles prennent ce qu'il leur offre. Si l'un de vos amis vous tendait un cadeau, et s'il vous voyait constamment le supplier de vous le donner, combien ce serait pénible pour lui, alors qu'il attendait que vous le preniez. Permettez-moi de vous le dire d'une autre manière. Puisque Jésus nous commande de croire que nous avons déjà reçu la chose que nous lui avons demandée, en priant, avant même qu'elle se manifeste de manière visible, il est clair que cette chose existe sous deux formes. Tout d'abord une forme invisible, puis, par la suite, une forme visible. Il faut d'abord croire que nous avons reçu cette chose sous sa forme invisible, avant de la voir se manifester sous sa forme visible ou matérielle. Lorsque Jésus a dit « Je te remercie, Père, de ce que tu m'as exaucé », la résurrection de Lazare était déjà accomplie dans le domaine invisible de la foi, avant de se manifester, quelques instants plus tard, dans le domaine visible ou matériel. Nous devons croire, exactement de la même façon, que nous possédons déjà notre guérison dans le domaine invisible, avant que Dieu puisse la manifester dans le domaine visible ou matériel. Car la foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Cela prouve que nous devons déjà posséder, dans leur forme invisible, les choses que nous demandons dans la prière, pour que Dieu puisse les manifester dans leur forme visible. C'est pourquoi le sacrifice de louange et d'action de grâce doit être continuellement fait dans le domaine de la foi, pour des bénédictions encore invisibles, avant qu'elles soient manifestées dans leur forme visible. La foi est un titre de propriété. La foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Le mot démonstration pourrait aussi être traduit par titre de propriété. Si vous possédez un titre de propriété, c'est la démonstration que vous êtes propriétaire de la chose en question, maison ou autre objet. Ainsi, la foi est le titre de propriété des choses que vous ne voyez pas encore. Si quelqu'un vous donnait le titre de propriété d'une maison que vous n'auriez jamais vue, vous posséderiez la maison avant même de la voir. C'est pourquoi Jésus répète souvent celui qui croit à, dans Marc 11, 24. Jésus nous commande de croire que nous avons déjà reçu les choses que nous demandons, au moment même où nous prions, sans attendre de les voir ou de les sentir. C'est à cette condition qu'il promet que nous les verrons s'accomplir. Tout ce qui n'est pas cela n'est pas la foi, car la foi est la démonstration des choses que l'on ne voit pas. Dès que la bénédiction que nous avions saisie par la foi se manifeste, la foi pour cette bénédiction disparaît. Si vous êtes l'héritier d'un riche parent, vous devenez riche au moment même où ce riche parent meurt, bien que vous n'ayez encore rien vu de toutes ses richesses. De même, tout ce qui vous a été légué par le Nouveau Testament de Jésus est déjà à vous, en vertu de la mort de Jésus, l'auteur du Testament. La foi, c'est simplement commencer à se servir de ce qui nous appartient déjà. Le figuier que Jésus a maudit a séché non pas depuis les feuilles, qui pouvaient être vues de tout le monde, mais depuis les racines, que personne ne pouvait voir. On ne pouvait donc pas voir que l'arbre était mort, en regardant simplement aux feuilles. Notre proclamation d'abolition de l'esclavage. Ce qui s'est passé au calvaire constitue notre proclamation d'abolition de l'esclavage. Nous avons été libérés de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons simplement croire ce que Dieu a dit qu'il a fait pour nous, et agir conformément à ce que nous croyons. Prenons cette liberté qui nous a été acquise par le sang de Christ, de la même manière que les esclaves noirs du sud des États-Unis ont pris leur liberté, lorsqu'Abraham Lincoln eut proclamé l'abolition de l'esclavage. Si les esclaves avaient jugé alors la situation d'après ce que leur montrait leur sens, ils auraient dit « Je ne me sens aucunement différent. Je ne vois aucun changement dans ma situation. Mon environnement est toujours le même et ce que cela aurait été de la foi ?» La foi, pour eux, a consisté à agir conformément à la liberté qui leur appartenait déjà. Ainsi, en croyant à la parole de Dieu et en agissant conformément à cette parole, nous pouvons entrer effectivement en possession de tout ce qui nous appartient déjà en Christ. Si nous préférons croire aux preuves physiques, au lieu de croire à la parole de Dieu, cela revient à anéantir cette dernière. La foi signifie que nous avons quitté le domaine des sens. Vous devez recevoir Christ par la foi, avant d'expérimenter la moindre de ses merveilleuses bénédictions. D'abord Christ, ensuite ses bénédictions puisque votre pardon est invisible, comment l'avez-vous reçu? Par la foi en la parole de Dieu, pourquoi ne pas recevoir la guérison divine, la vie et la force de la même manière? Une raison pour laquelle certains ne sont pas guéris. Une raison pour laquelle certains ne sont pas guéris est qu'ils croient ce que leur disent leurs cinq sens, au lieu de croire ce que leur dit la parole de Dieu. Nous devons comprendre que nos cinq sens appartiennent à l'homme naturel, et qu'ils nous ont été donnés pour percevoir les choses de ce monde. Mais les choses de Dieu ne peuvent être ni discernées, ni reçues, ni connues par nos sens physiques. Aucune sensation physique, comme par exemple la douleur, la faiblesse ou la maladie, ne peut jamais être une raison suffisante pour nous faire douter de l'accomplissement de n'importe quelle promesse divine. Il serait insensé pour moi de douter de la promesse du retour de Jésus, parce que je me sens malade ou fatigué. Si la douleur n'est pas une raison suffisante pour douter d'une seule promesse de Dieu, elle n'est pas une raison suffisante pour douter de n'importe quelle promesse de Dieu. Dieu est fidèle à toutes ses promesses. Il est donc tout aussi insensé de douter de la promesse que Dieu guérit, sous prétexte que nous sentons encore des douleurs, que de douter du retour de Jésus-Christ, sous prétexte que nous sommes malades. La guérison de notre âme et de notre corps s'appuie sur la vérité éternelle de l'œuvre parfaitement accomplie par Christ, et pas sur nos sensations. Quand le Seigneur vous dit « Je suis l'Éternel qui te guérit », il veut que vous répondiez avec foi « Oui, Seigneur, Tu es l'Éternel qui me guérit. Vous ne pouvez pas vous tromper en disant et en croyant fermement ce que Dieu lui-même dit, c'est-à-dire qu'il est en ce moment même en train de vous guérir, et qu'il continuera à œuvrer jusqu'à ce que vous soyez en parfaite santé. La foi, c'est dire et croire ce que Dieu dit, et agir en conséquence. Les bénédictions que nous saisissons avec une foi ferme dans les promesses de Dieu finiront toujours par se matérialiser. Nous ne devons pas être irrésolus. Pour saisir la guérison que nous donne Christ, nous ne devons pas être irrésolus. Jacques dit mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1:6-8. Nous devons nous revêtir de la pensée de Christ. Cela signifie que nous ne devons voir que ce qu'il voit, et agir en conséquence. Ceci est impliqué lorsque nous demandons avec foi. Paul nous demande de nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres, Colossiens 3:9. Ceci inclut les habitudes de pensée de notre vieil homme, qui ne se fie qu'à la démonstration de ses cinq sens. Le fait de nous revêtir de l'homme nouveau et d'avoir la pensée de Christ comprend le fait de croire ce qui est écrit, et de dire, comme il l'a dit, il est écrit, rappelez-vous que l'homme nouveau n'est pas gouverné par les cinq sens. La parole de Dieu est puissante. La Bible nous dit que chaque parole de Dieu est puissante. Le psaume 127 nous dit, il envoya sa parole et il est guéri. C'est sa manière de guérir notre âme comme notre corps. J'ai connu un certain nombre de personnes qui ont été guéries simplement en lisant ces paroles d'Ésaïe 53:5 et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ils ont alors proclamé, Dieu dit que je suis guéri, je vais croire Dieu et pas ce que je sens. En disant et répétant ainsi ce que Dieu dit, et en agissant en conséquence, ils ont vu même des cancers disparaître. Lorsque nous croyons fermement en la parole de Dieu, et que nous mettons notre foi en action, rien ne peut empêcher la puissance contenue dans la parole de manifester toute chose, exactement comme la parole le dit. Tout ce que nous devons faire est de croire fermement ce que la parole dit, et de refuser résolument de voir, croire ou penser à tout ce qui contredit la parole. Nous devons nous ranger du côté de Dieu, et croire que tout ce dont nous avons besoin, pour notre esprit, notre âme et notre corps, nous appartient déjà. Dieu a dit à Abraham, je t'ai fait père d'une multitude. Puis il a changé son nom en celui d'Abraham, qui signifie père d'une multitude. Par la foi, le patriarche répétait continuellement les paroles de Dieu, je suis le père d'une multitude. Il considérait ainsi les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient, et il donnait gloire à Dieu par avance. C'est ainsi que ce que Dieu lui avait dit se réalisa dans sa vie. Si vous croyez que Dieu vous a donné tout ce qu'il a dit qu'il vous a donné, et si vous continuez à obéir à sa parole, Dieu ôtera de vous toutes les choses anciennes, et il fera apparaître en vous toutes choses nouvelles en Christ. Dieu nous a déjà tout donné. 2 Pierre 1:3 nous dit que Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Jésus nous l'a acquis, et Dieu nous dit qu'il nous l'a déjà donné. Ésaïe 53:5 et 1 Pierre 2:24 nous disent que Dieu nous a guéris. Colossiens 1:13 dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Dans Luc 10:19, Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Romains 6:18 nous dit que nous sommes libres. Quand nous saisissons tout ceci par la foi, Dieu nous avertit, comme dans le cas de Pierre, de ne pas regarder à nos circonstances et à nos sensations. Quand Pierre marchait parfaitement sur l'eau, les vagues étaient tout aussi hautes que lorsqu'il a coulé. Tant qu'il ne regardait pas les vagues, elles ne pouvaient pas le gêner. Mais à l'instant où il a regardé les vagues, il a douté et il a sombré. De même, le vent était tout aussi fort quand Pierre marchait sur l'eau, que quand il a coulé. Tant qu'il n'y faisait pas attention, cela ne pouvait pas le gêner. Dieu nous enseigne dans ce passage que si nous nous occupons de ce que nous voyons et sentons, au lieu de nous occuper seulement de lui et de sa parole, nous perdons tout ce qu'il nous offre. En revanche, en refusant fermement de porter nos regards sur tout ce qui n'est pas Dieu et sa parole, nous obtenons et nous gardons tout ce qu'il dit qu'il nous a déjà donné. Retiens ce que tu as. Satan s'efforce constamment de nous reprendre ce que nous prenons des mains de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous avertit : retiens ce que tu as, Apocalypse 3 à 11. Jésus avait donné à Pierre le pouvoir de marcher sur l'eau, mais le diable le lui a repris en attirant son attention sur le vent qui représente les choses que nous sentons, et sur les vagues qui représentent les choses que nous voyons. Pierre avait la puissance, et l'a utilisée. Mais il a perdu en doutant. Combien de personnes perdent la manifestation de leur guérison, qui pourtant était en train de se produire, en détournant leur attention de Christ et de sa parole, pour la fixer sur leurs sensations avant de vous décider à marcher par la foi pour votre guérison. Vous devez régler absolument cette question, et être résolu à ne voir que Dieu et ce qu'il a dit, lorsque vous aurez commencé à marcher par la foi. À partir de ce moment, vous devrez bannir absolument le doute de vos pensées, parce que le seul fondement sur lequel vous aurez posé la plante de vos pieds sera la parole de Dieu. Si vous surveillez alors vos sensations et vos symptômes, vous serez comme un fermier qui déterre sa semence pour voir si elle germe. Faire cela tue la semence à la racine. Un fermier digne de ce nom, après avoir planté sa semence, dit avec satisfaction : je suis heureux que ce soit fini, et il croit que la semence a commencé à travailler avant même qu'il puisse la voir grandir. Pourquoi ne pas avoir la même foi en la semence incorruptible, la parole de Dieu, et ne pas croire qu'elle accomplit déjà son œuvre, sans attendre de le constater de vos yeux? En recevant une guérison surnaturelle, la première chose que vous devez apprendre est de cesser de vous inquiéter de la condition de votre corps, parce que vous l'avez remis entre les mains du Seigneur, et qu'il a pris la responsabilité de vous guérir. Vous devez être heureux et confiant, parce que vous savez qu'il a donné sa propre parole, et promis de s'occuper de tous les cas qui seront confiés à sa responsabilité. En recevant la guérison par la foi, vous perdez de vue votre corps et ses sensations, pour ne considérer que le Seigneur et ses promesses. Avant même d'être conscient d'un quelconque changement physique, la foi se réjouit, et dit : il est écrit, Jésus a remporté ses grandes victoires en disant : il est écrit, et en croyant en ce qui était écrit. Toute sensation défavorable ou contraire devrait être considérée comme un avertissement à ne pas nous occuper de notre corps, mais de nous attacher d'autant plus à la promesse du Seigneur, et de ne nous occuper que de lui. Il vaut mieux, et de loin, être en communion avec Dieu et se réjouir de sa fidélité, que de se préoccuper d'un corps malade. C'est ainsi que nous avons vu des multitudes accomplir de grands progrès spirituels, alors que d'autres délaissaient la douce communion qu'ils avaient avec Dieu pour retomber dans les soucis que leur causaient leurs sensations et leurs symptômes. Comment la foi peut être fortifiée? Dans Marc 9 et 24, nous voyons que le père qui recherchait la guérison de son fils s'est écrié : tout est pleuré, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il a demandé à Jésus-Christ de l'aider, et il a reçu ainsi l'aide dont il avait besoin. Il a donc atteint une position spirituelle plus élevée que celle des apôtres, réussissant là où ils avaient échoué. En grec, le Saint-Esprit est appelé le Paraclet, ce qui signifie celui qui aide, qui console. Dieu soit béni. Le chrétien peut toujours avoir son aide chaque fois qu'il en a besoin. Le Saint-Esprit est toujours prêt à produire en nous ce qui lui est agréable. Ceci inclut tout particulièrement la foi, parce que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Puisque la foi est tellement agréable à Dieu, il veut la produire dans notre cœur par sa parole et par son esprit. Le Saint-Esprit est toujours prêt à aider chaque chrétien à mettre sa foi en action pour s'emparer de n'importe quelle bénédiction que Dieu lui promet dans sa parole. La Bible nous dit que Christ est capable de sauver parfaitement. Ceci inclut en particulier le fait de nous délivrer de notre incrédulité. Car l'incrédulité est un péché, et le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché. Soyons donc résolus à n'écouter que sa parole, et confessons à Dieu notre incrédulité. Puis comptons sur lui pour qu'il nous en délivre, comme il le ferait pour tout autre péché. Sa grâce est toujours suffisante pour faire triompher en nous la foi, pour que nous saisissions toutes les bénédictions qu'il nous offre. Le Saint-Esprit est toujours prêt à accomplir dans notre vie toutes les promesses que Dieu nous a données. Qu'est-ce qui constitue la justice d'un homme? Qu'est-ce qui constitue la justice d'un homme? La Bible nous dit à maintes reprises qu'Abraham a été considéré par Dieu comme un homme juste. Comment Dieu a-t-il considéré qu'Abraham était juste? C'est très simple, Abraham crut à Dieu et mit sa foi en action. Il a tellement bien cru et agi qu'il a reçu de Dieu l'accomplissement de sa promesse. Faire cela, c'est le summum de la justice. Il n'y a rien qui soit plus important que cela. Rien n'est un plus grand privilège, parce que ce n'est que de cette manière que Dieu peut accomplir le glorieux programme qu'il a conçu pour chacun et pour l'Église. Il n'existe aucun autre moyen d'accomplir la volonté et l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on a posé à Christ la question suivante, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Il répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, Jean 6, 28-29. Dieu ne peut œuvrer que s'il se trouve en face d'une foi vivante en l'accomplissement de ses promesses. Puisque nous sommes considérés comme justes lorsque nous croyons à Dieu, c'est donc l'incrédulité qui constitue l'iniquité, ou l'injustice. L'incrédulité est quelque chose d'inique et d'impie, parce qu'elle bloque ou annule le programme divin, c'est-à-dire tout ce que Dieu a promis de faire en réponse à la foi. Il n'est donc pas étonnant que Dieu ait envoyé le Saint-Esprit pour convaincre le monde de ce péché d'incrédulité. Dieu considère comme de l'iniquité tout ce qui nous empêche d'avoir une foi vivante pour accomplir la volonté de Dieu. Même si nous l'habillons de religion, c'est quelque chose qui a pris la place de sa justice. Christ est capable de nous sauver parfaitement, c'est-à-dire qu'il est capable de nous sauver de notre incrédulité, si mortelle pour l'accomplissement du glorieux programme divin. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous guider dans toute la vérité, pour que nous puissions croire à la vérité, et pour que tout le programme de Dieu puisse être exécuté. Beaucoup de personnes croient en Dieu, mais ne croient pas à Dieu comme l'a fait Abraham. Notre seul devoir, et notre plus grand privilège, c'est d'avoir une foi ferme en tout ce que Dieu nous a révélé comme étant sa volonté pour nous. Combien Dieu déverserait les flots de sa puissance sur le monde entier, si tous ceux qui confessent son nom mettaient tout en œuvre pour découvrir ses vérités divines, pour les garder avec une foi vivante, et pour les mettre en pratique. La foi en Dieu peut s'appuyer sur un fondement bien plus solide que celui sur lequel s'appuie le péché et la maladie, car elle bénéficie de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit libérera votre esprit de tous les doutes, si vous lui faites confiance pour cela, et si vous gardez votre attention fixée sur la parole de Dieu. Les glorieuses et éternelles réalités que Dieu fait contempler aux yeux de la foi prennent toujours le dessus sur le cancer ou la maladie que les yeux physiques peuvent voir, à condition que ces réalités soient réellement et fermement contemplées. Le doute, le péché, et la maladie peuvent toujours être détruits par une utilisation correcte des yeux de notre cœur. Éphésiens 1:18. C'est la méthode infaillible pour nous saisir de toutes les bénédictions de Dieu. Toutes les glorieuses victoires de la foi énumérées au chapitre 11 des Hébreux ont été obtenues par une utilisation correcte et persévérante de cette meilleure vue. La loi de l'esprit de vie qui guérit notre âme et notre corps est bien plus forte que la loi du péché et de la mort. Cette loi divine, si nous ne la bloquons pas, produira toujours ses conséquences, 1 million de fois s'il le faut. Tous ceux qui sont décidés à obtenir les bénéfices de l'expiation, disposent, en la personne du Saint-Esprit, de quelqu'un d'infiniment capable de les aider, et dont la puissance ne peut jamais être mise en échec, quand on lui fait confiance. De même que la grâce de Dieu est plus forte que le péché, ainsi, la vertu guérissante de Christ est bien plus puissante que la gravité de n'importe quelle maladie. Quand l'épreuve que Dieu donne à notre foi, sa propre parole, occupe toutes nos pensées, elles sont bien plus fortes que toutes les preuves que Satan nous donne pour nous faire douter. Qu'est-ce que l'exercice de la foi? Jésus a dit à l'homme qui avait la main sèche, étends ta main, Marc 3:5. Jésus donne d'abord la foi, puis nous appelle ensuite au merveilleux exercice de la foi. L'homme étendit la main, confiant dans la puissance divine, et elle fut guérie. Quand nous faisons un effort pour agir en nous appuyant sur Dieu, et pour faire ce qui serait impossible à faire sans lui, Dieu nous donne sa divine puissance, et la chose est accomplie, quelle qu'elle soit. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, nous pouvons dire tout est possible à celui qui croit pas à celui qui s'en croit capable. Nous voyons que la capacité de cet homme ne résidait pas en lui, mais en Christ, dans lequel tous les aspects de notre salut sont contenus. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Philippiens 4:13. Par notre union avec Christ, le vrai cep, sa force nous est toujours disponible, et nous devons la mettre en œuvre. En faisant un effort pour étendre sa main, l'homme a ouvert la voie à la guérison et a permis au flot de la vie divine de l'atteindre. Cet acte de foi commence sur le plan naturel, et ouvre la voie à la puissance surnaturelle, qui peut alors répondre à notre besoin. L'acte de foi se transforme aussitôt en action entièrement surnaturelle, par la vertu de la puissance divine. Le corps peut alors accomplir ce qui lui était impossible dans son état précédent, par un acte indépendant des forces naturelles, mais dépendant pleinement de l'intervention divine. Cet acte de foi n'est pas seulement un acte physique, mais il comprend un exercice de notre cœur et de nos pensées. Le plein exercice de notre foi signifie que nos pensées, nos paroles, et nos actes sont tous imbibés de foi. Une telle attitude amène l'accomplissement de tout ce que la foi a saisi, selon les promesses de la parole. Peut-être demanderez-vous comment peut-on mettre notre foi en action, quand il s'agit de guérir de la cécité, ou d'une maladie qui n'immobilise pas le corps. Jésus a dit à l'aveugle « Va te laver à la piscine de Siloé ». Cet acte donna à l'homme la possibilité de mettre sa foi en action, dans ses pensées, son cœur et son corps. Il en fut de même pour Naaman, pour les 10 lépreux, et pour le centenier. Dans chaque cas, ils s'en allèrent en se confiant en la parole de Dieu, et ils crurent qu'ils possédaient la guérison, avant même de la voir se manifester. Si vous décidez de me faire un cadeau et que vous venez me dire que vous avez déposé 5000 francs en ma faveur sur mon compte bancaire, si j'ai confiance en vous, je mettrai ma foi en action et je commencerai à tirer des chèques selon mes besoins, dans la limite de la somme disponible. Je n'aurais pas vu l'argent sur mon compte en banque, mais j'en serais autant propriétaire que si je le tenais dans mes mains. Il en est de même pour la guérison que Dieu nous a acquise en Christ. La maladie ne m'appartient plus. J'en ai été racheté. Mais la guérison m'appartient. Elle est sur mon compte bancaire céleste. Je commence donc à tirer des chèques de guérison comment? En m'efforçant de faire, en son nom, ce que je ne pouvais pas faire sans lui. C'est cela, maître, sa foi en action tirée des chèques de guérison et de santé sur la banque de Dieu, c'est compter sur quelque chose que nous ne sentons pas et ne voyons pas, mais qui nous appartient en vertu de la parole de Dieu, de la même manière que je serais propriétaire de l'argent dont vous m'auriez fait cadeau, sans l'avoir jamais vu ni senti. L'arbre cerclé. Peut-être que quelqu'un me dira alors comment puis-je dire que je suis guéri, quand je sens encore la maladie dans mon corps, et que je suis conscient de la douleur? Il m'arrive de donner une illustration simple pour rendre cette vérité plus claire. L'une des méthodes utilisées pour tuer un arbre consiste à lui placer un cercle de fer autour du tronc. Quand nous voyons un arbre ainsi cerclé, nous pouvons dire qu'il est déjà mort. Son feuillage peut encore rester vert et frais pendant quelque temps, et il peut avoir toute l'apparence de la vie. Notre œil physique voit l'arbre en vie. Mais l'œil de notre intelligence, dont la connaissance dépasse ce que voit l'œil physique, voit déjà l'arbre comme étant mort. Au temps marqué, les feuilles vont se dessécher et tomber. La mort, que l'œil de notre intelligence avait déjà discernée, est rendue alors visible à nos sens physiques. Il en est de même lorsque nous saisissons par la foi la guérison de notre corps. Lorsque nous saisissons la parole de la promesse, et que nous recevons par la foi l'œuvre parfaitement accomplie par Jésus, l'épée de l'esprit porte un coup mortel à la maladie. Pendant un certain temps les symptômes peuvent rester, mais l'œil de la foi contemple le divin crucifié, qui a détruit la maladie et qui nous a donné la santé. Nous pouvons alors appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et la vie divine se manifeste dans notre corps. C'est ce que la foi saisit comme vrai qui se manifeste ensuite à nos sens. La foi sait que Dieu, dans son amour et son omnipotence, veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est même pas scientifique d'être conduit par nos sens physiques, parce qu'ils sont incapables de saisir toutes les réalités en présence. Ils ne peuvent pas saisir les réalités les plus grandes et les meilleures. Rechercher la guérison par des moyens naturels seulement est anti-scientifique, parce que cela revient à négliger les choses les plus importantes, c'est-à-dire la cause surnaturelle de la maladie, et les moyens surnaturels que nous donne le Seigneur pour guérir. Nous bénissons Dieu pour les milliers de personnes qui ont reçu leur guérison de cette manière. Développer la foi qui permet d'obtenir la guérison est un bienfait beaucoup plus grand que la guérison elle-même. Les Écritures nous montrent de nombreux héros de la foi qui se sont rendus célèbres pour avoir recherché auprès de Dieu des bénédictions que nous appelons matérielles. Quand nous avons compris ce qu'était la foi pour obtenir la guérison, nous avons compris comment recevoir toutes les autres bénédictions que Dieu promet dans sa parole. En leur offrant la guérison que Christ leur a acquise, l'Église pourrait gagner des millions d'âmes pour le service du Seigneur, et en faire des combattants capables de mener le bon combat de la foi. En apprenant à être guéri par la foi en Jésus-Christ, puisses-tu, cher lecteur, progresser dans une vie de foi qui te permettra d'être utile dans le royaume de Dieu. Chapitre 7 : La confession de notre foi. Beaucoup de gens ne parviennent pas à recevoir ce qu'ils demandent parce qu'ils n'ont pas compris l'importance de la confession. Hébreux 3:1 parle de la foi que nous professons. Professer signifie aussi confesser. C'est le même mot grec qui est traduit à la fois par professer et confesser. Que signifie ce mot? En grec, ce mot signifie dire la même chose que quelqu'un. Cela veut dire croire, et dire ce que Dieu dit à propos de nos péchés, de nos maladies, et de tout ce qui est compris dans notre rédemption. La confession est une affirmation d'une vérité biblique que nous avons acceptée. La confession est tout simplement croire dans notre cœur et répéter avec nos lèvres les propres déclarations de Dieu concernant ce que nous sommes en Christ. Dans 1 Pierre 2:24, le Saint-Esprit dit par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Nous devons croire et dire la même chose. Lorsque ce que nous affirmons est la parole de Dieu, le Seigneur veille sur ce que nous disons pour l'accomplir. Jérémie 1:12. La foi s'exprime toujours par la confession de nos lèvres. Le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Dans Hébreux 3:1, Dieu nous commande de considérer Jésus-Christ, l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. En tant que souverain sacrificateur, Jésus agit en notre faveur en fonction de ce que nous confessons, si cela est en accord avec la parole de Dieu. Paul nous dit qu'il prêche la parole de foi, qui dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 18. La relation entre la confession et la manifestation. Veuillez noter ici que la confession, c'est-à-dire le fait de dire la même chose que Dieu, est faite par la foi. Il faut croire et confesser avant de voir la manifestation. Notre confession de Jésus comme Seigneur vient d'abord. Puis Jésus, notre souverain sacrificateur, répond en nous accordant la nouvelle naissance. Ce n'est pas le salut qui précède la confession, mais la confession qui précède le salut. Il est impossible d'avoir le salut sans confesser d'abord Jésus comme Seigneur. La foi, c'est agir en nous appuyant sur la parole de Dieu. Une telle attitude permet toujours à Dieu d'accomplir sa promesse. Que devons-nous confesser? Peu de chrétiens ont compris aujourd'hui la place de la confession dans le plan de Dieu, lorsqu'il nous faut saisir ses bénédictions. Quand on emploie le mot confession, beaucoup de gens pensent instinctivement au fait de confesser ses péchés, ses faiblesses ou ses échecs. Mais cela n'est que le côté négatif de la confession. Notre confession négative du péché n'était nécessaire que pour ouvrir le chemin à la confession positive qui mène au salut, et à toute une vie où nous pourrons croire dans notre cœur et confesser de notre bouche tout ce que Dieu nous dit dans ses promesses. Nous commençons par confesser le salut et la nouvelle naissance, puis nous continuons en confessant toutes les autres bénédictions qui nous sont promises dans la parole de Dieu. puis nous devons agir, à chaque étape de notre salut, conformément à ce que nous savons. Nous devons croire dans notre cœur et confesser de nos lèvres toute cette parole de foi que Paul prêchait. Il a prêché tout le conseil de Dieu. Il a prêché les richesses insondables de Christ. Il a dit aux disciples qu'il ne leur a rien caché de ce qui leur était utile, Actes 20:20. Tout ce que Jésus a accompli dans son œuvre substitutive est la propriété personnelle de tous ceux pour lesquels il a accompli. C'est pourquoi, tout au long de notre vie chrétienne, Dieu nous demande de croire dans notre cœur et de confesser de nos lèvres tout ce qu'il dit que nous sommes en Christ. Nous ne devons ni ignorer ni négliger notre position légale en Christ, car elle constitue la base de tous nos actes de foi, qui permettront à Dieu d'accomplir sa parole en notre faveur. Nous devons confesser, et murmurer dans notre cœur « J'ai tout pleinement en lui » Colossiens 2:10. Quand nous apprenons que Dieu dit dans sa parole « Je suis l'Éternel qui te guérit », nous devons le croire dans notre cœur et le confesser de nos lèvres. Christ agira alors en tant que notre souverain sacrificateur, et l'accomplira dans notre vie. Nous devons confesser que le sacrifice de Jésus au calvaire nous a complètement libérés de l'esclavage de Satan, et de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous devons mettre nos actes en accord avec cette confession. Nous devons confesser que nos maladies ont été placées sur Christ, et que nous avons été rachetés de la malédiction de la maladie. Que le faible dise « Je suis fort », car l'Éternel est ma force. Notre confession inclut toutes les vérités de l'Écriture, tout ce que le sacrifice de Jésus nous a acquis, tout ce qu'il accomplit en tant que souverain sacrificateur, et toute la volonté révélée de Dieu. Nous devons confesser que notre rédemption a été parfaitement accomplie, que la domination de Satan est terminée, car le calvaire nous a affranchis. Nous ne devons pas confesser ce que nous disent nos sens ou nos sensations. La rémission de nos péchés signifie que tout ce qui concerne notre vie passée a été complètement effacé. Nous sommes une nouvelle création. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devons sans cesse confesser que nous avons été rachetés de l'esclavage de Satan. Bien entendu, nous ne devons pas dire aux autres que notre guérison est pleinement manifestée sur le plan physique, tant qu'elle ne l'est pas encore. Dieu ne nous demande pas cela. Mais nous pouvons répondre à ceux qui nous le demandent : je m'appuie sur la parole de Dieu. Une mauvaise confession. Nous ne pouvons jamais avancer au-delà de notre confession. Une confession négative nous fera reculer au niveau de cette confession. Nous sommes en réalité gouvernés par ce que nous confessons de nos lèvres. Notre confession nous emprisonnera si elle est négative, et nous libérera si elle est selon la parole de Dieu. Beaucoup de gens parlent tout le temps de leurs échecs et de leur manque de foi. Ils reculent immanquablement au niveau de leur confession. Le fait de confesser le manque de foi augmente l'incrédulité. Chaque fois que vous confessez vos doutes et vos craintes, vous confessez en réalité votre foi en Satan, et vous niez la puissance et la grâce de Dieu. Quand vous confessez le doute, vous vouliez par vos propres paroles. Proverbe 6:2 dit : si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche lorsque nous mettons la parole de Dieu en doute, c'est parce que nous croyons à quelque chose d'autre, qui est contraire à cette parole. Une mauvaise confession ferme la porte à notre Père Céleste et ouvre la porte à Satan. Nous devons refuser dorénavant de faire la moindre confession négative. Une fois que nous avons compris que nous ne pouvons pas aller au-delà de notre confession, nous pouvons être en mesure d'être utilisés par Dieu. La maladie peut augmenter son emprise quand nous confessons le témoignage de nos sens. Les sensations et l'apparence extérieure n'ont rien à faire dans le domaine de la foi. Le fait de confesser la maladie revient à signer le reçu prouvant que vous avez accepté un paquet poste qui vous était adressé. Satan est alors en possession de votre reçu, qui prouve que vous avez accepté son paquet. N'acceptez rien de ce que Satan vient vous livrer et ne donnez pas accès au diable si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu 1 Pierre 4:11. Dans Éphésiens 4:29, le Seigneur nous demande de ne dire que des paroles qui servent à l'édification. Nous ne devons pas rendre témoignage à notre adversaire. Nous devons agir dans la foi, parler dans la foi, et penser dans la foi. Dans Philippiens 4:8, le Saint-Esprit dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le Saint-Esprit dit, dans le livre des Proverbes, il est tel que sont les pensées dans son âme. Dans 2 Corinthiens 10:4-6, le Saint-Esprit dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons renverser les raisonnements et donner à la parole de Dieu toute sa place dans nos pensées et sur nos lèvres. Nous devons avoir la pensée de Christ. Jésus n'a pas oublié qu'il s'est chargé de nos maladies sur la croix, et le Saint-Esprit nous commande de n'oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, et qui guérit toutes tes maladies. Les transformations spirituelles et physiques que Dieu veut apporter dans notre vie doivent être opérées par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12:1-2 dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps le domaine de nos cinq sens, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Peu connaissent cette loi spirituelle selon laquelle ce sont les choses que nous confessons qui nous gouvernent. Ce sont les choses que nous confessons de nos lèvres qui dominent réellement notre être intérieur. Faites en sorte que vos lèvres accomplissent leur devoir. Refusez de leur permettre de détruire l'efficacité de la parole de Dieu, dans votre situation. Certains confessent de leurs lèvres mais ne croient pas dans leur cœur. Ils disent oui. La parole de Dieu est vraie, mais leur cœur dit elle n'est pas vraie dans mon cas. La confession de vos lèvres n'a aucune valeur si votre cœur refuse de croire ce que vous dites. Demeurons fermes dans notre confession. Hébreux 4:14 dit ainsi, « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous confessons. » Il s'agit de la confession de notre foi dans l'œuvre rédemptrice que Dieu a accomplie par Jésus-Christ. Je dois demeurer ferme dans la confession de l'intégrité absolue de la Bible. Je dois demeurer ferme dans la confession de l'œuvre de Christ dans tous ses aspects. Je dois demeurer ferme dans la confession que Dieu est la force de ma vie. Je dois demeurer ferme dans la confession qu'il s'est chargé de mes maladies et de mes douleurs, et que par ses meurtrissures j'ai été guéri. Puisque Dieu le dit, nous devons croire et dire les mêmes choses que lui. Nous devons connaître nos droits, tels qu'ils nous ont été révélés par la parole de Dieu, puis demeurer ferme dans la confession de ses droits. Quand vous lisez que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, demeurez ferme dans cette confession. Nous devons demeurer ferme dans notre confession de ce que Christ a fait pour nous, pour que cela puisse être accompli en nous. Nous devons demeurer fermes dans la confession que nous avons été rachetés de l'esclavage de Satan. Nous devons demeurer fermes dans notre confession, même devant toutes les évidences contraires. Si Dieu déclare que par ses meurtrissures, j'ai été guéri, je dois confesser ce que Dieu dit à propos de mes maladies, et demeurer ferme dans cette confession. Je dois reconnaître l'absolue vérité de ses paroles, avant tout changement visible. Je dois agir en m'appuyant sur ses paroles, et remercier Dieu parce qu'il a placé toutes mes maladies sur Christ, comme il l'a fait pour mes péchés. La guérison vient toujours en réponse au témoignage de notre foi. Certains échouent, lorsque les choses deviennent difficiles, parce qu'ils arrêtent de confesser la parole. La maladie, comme le péché, est vaincue par notre confession de la parole. Que votre bouche fasse son devoir, remplissez-la de la parole. Faites-lui dire ce que Dieu dit à propos de la maladie. Ne permettez pas à vos lèvres de dire quoi que ce soit de contraire. Le fait de croire la parole de Dieu sans douter dans notre cœur implique que nous nous soyons dépouillés du vieil homme, qui est habitué à juger d'après les preuves que lui donnent les sens. La foi juge d'après la parole et non d'après les sens. Notre seul problème est de rester en harmonie avec la parole de Dieu, et de ne pas permettre à nos sens d'usurper la place de la parole. Cessons de faire comme Thomas, qui doutait, et qui a dit « Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Nous devons accepter les propres paroles de Christ, qui a dit heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru Jean 20, 29. La parole est morte si elle ne rencontre pas de la foi sur nos lèvres. C'est alors qu'elle devient une puissance surnaturelle. Que vos lèvres soient donc en harmonie avec la parole de Dieu. Son ministère de souverain sacrificateur. Le ministère de souverain sacrificateur de Jésus répond à tous nos besoins, depuis notre nouvelle naissance jusqu'à notre entrée dans les cieux. Pourquoi devons-nous demeurer fermes dans notre confession? Parce qu'il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Hébreux 4, 14. Parce qu'il est un grand souverain sacrificateur, Hébreux 4, 14. Parce qu'il est un souverain sacrificateur compatissant, Hébreux 4, 15. Parce qu'il peut compatir à nos faiblesses, Hébreux 4, 15. Parce qu'il vit éternellement pour intercéder pour nous. Il est toujours prêt à nous faire grâce, pour que nous soyons secourus dans nos besoins, Hébreux 4, 16. Notre réussite est assurée, notre réussite est assurée, parce que Jésus est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Quand vous confessez que par ses meurtrissures nous sommes guéris, et si vous demeurez ferme dans cette confession, aucune maladie ne peut tenir devant vous. La foi consiste alors à remercier Dieu de tout votre cœur pour cette guérison qui n'est pas encore manifestée, mais que vous êtes aussi certain de posséder que si elle était manifestée. La confession de vos lèvres, qui vient d'un cœur qui est dans la foi, vous permettra de vaincre l'ennemi dans tous vos combats. Les paroles de Christ ont brisé la puissance des démons et apporté la guérison aux malades. Elles font de même aujourd'hui quand nous les confessons avec foi. La parole vous guérira si vous la confessez continuellement. Dieu veillera à ce que votre corps obéisse à votre confession de sa parole, car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Le psaume 34, 10 dit « Rien ne manque à ceux qui le craignent ». Si j'ose dire que cela est vrai, et si je demeure ferme dans cette confession, Dieu accomplira ce que j'ai confessé. Rien ne vous établira davantage dans la foi, rien ne fortifiera davantage votre foi que la confession de la parole. Confessez-la d'abord dans votre cœur. Confessez-la à haute voix dans votre chambre. Répétez-la sans cesse. Répétez-la jusqu'à ce que votre esprit soit en accord avec vos paroles. Répétez-la jusqu'à ce que votre être tout entier soit en harmonie avec la parole de Dieu. Les paroles de Christ étaient remplies de sa vie. Si nous agissons selon ses paroles, elles nous rempliront de Christ. Nous devons obéir à la parole comme nous aurions obéi à Jésus s'il s'était présenté à nous de manière visible. Confessons Christ comme Seigneur. Quand nous venons à Dieu pour être sauvés, le Seigneur nous demande de confesser Jésus-Christ comme notre Seigneur et de lui consacrer entièrement notre vie. Il en est de même pour tous les aspects ultérieurs de notre salut. Le Saint-Esprit dit, dans Colossiens 2:6 « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui » Romains 14:9 dit « Car Christ est mort et il a repris vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Si nous voulons que notre foi soit vivante et puisse se saisir de toutes les promesses de Dieu, il faut que nous nous soumettions à la Seigneurie de Jésus-Christ. Ce n'est que lorsque nous l'aurons entièrement accepté comme Seigneur de notre vie qu'il pourra nous guérir, nous baptiser de son esprit, nous donner la vie de Dieu en abondance, être en nous une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle, nous permettre de vivre ce que nous sommes en lui, manifester sa personne sous la forme de toutes les bénédictions promises, être lui-même notre force, notre portion, notre tout, nous donner l'usage illimité de son nom, nous donner la puissance de chasser les démons en son nom. Nous oindre pour prêcher sa parole, nous donner la puissance d'imposer les mains aux malades pour les guérir, et ce sera. Votre réussite et votre utilité pour Dieu dans ce monde se mesureront aux paroles que vous confesserez, et à la ténacité avec laquelle vous demeurerez ferme dans cette confession, en toutes circonstances. Dieu ne peut pas être plus grand, en vous, que votre propre confession de ce qu'il est. Face à tout besoin, confessez que l'Éternel est votre berger, et que vous ne manquerez de rien. Chapitre 8 Le chant de Dieu. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Vous êtes le chant de Dieu. 1 Corinthiens 3:6-9. pour que les promesses de Dieu s'accomplissent. Tout homme mortel, sur cette terre, a été racheté à grand prix, pour devenir le champ de Dieu, dans lequel sa semence incorruptible doit croître, être cultivée, et produire ses merveilles. Un vrai chrétien est le champ de Dieu, son jardin, sa propriété, sa ferme. Un champ appartient à son propriétaire. C'est pourquoi Paul dit « Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été racheté à grand prix. Dieu détient un titre de propriété sur nous. Nous sommes sa propriété absolue. Nous lui appartenons par droit de création, et par droit de conservation. Mais la plus belle réalité, c'est que nous lui appartenons par droit de rédemption, parce qu'il nous a rachetés à un prix infini, pour que nous devenions son champ. La semence doit être plantée. Paul a dit « J'ai planté dans la parabole du semeur », Jésus dit « La semence, c'est la parole de Dieu » Luc 8:11. C'est elle la semence incorruptible. Dieu produit ses merveilleuses moissons de la même manière qu'un cultivateur produit les siennes. Jésus a dit « Le semeur sortit pour semer ». C'est par la parole de Dieu que nous pouvons savoir pour quelle chose nous pouvons nous confier en Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, de ce que l'on connaît de la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut que toutes ces semences soient plantées en nous, parce qu'elles peuvent accomplir des prodiges merveilleux. En créant la semence, Dieu a voulu qu'elle soit plantée dans une bonne terre, où elle pourrait germer, croître, et produire du fruit. C'est pourquoi Paul a dit « J'ai planté une semence est impuissante tant qu'elle n'est pas plantée ». Le prix infini que Dieu a payé pour acquérir son champ révèle l'importance que revêt pour lui le fait de planter la semence incorruptible. Toutes les œuvres merveilleuses de Dieu sont contenues potentiellement dans la semence. Toutes les œuvres de Dieu sont faites dans la fidélité à ses promesses. Les œuvres de Dieu sont retenues tant que la semence n'est pas dans une bonne terre. Son plan pour nous tous est que nous passions notre vie à rendre possible la germination et la croissance de la semence incorruptible. Rien ne peut prendre la place de la semence, pas même la prière. La prière n'est pas la semence. C'est la parole qui est la semence. Dieu a donné ses promesses dans le seul but de les accomplir. Elles sont toutes une révélation de ce que Dieu est ardemment désireux d'accomplir pour nous. Le Saint-Esprit, dont le ministère est d'accomplir les promesses, parle d'elles en disant qu'elles sont les plus grandes et les plus précieuses promesses de Pierre 1:4. On peut voir leur grandeur dans le fait qu'elles sont parfaitement propres à satisfaire tous nos besoins et à remplir toutes nos capacités. C'est leur caractère immuable qui fait d'elles les plus grandes et les plus précieuses promesses. Cela enlève toute raison de douter, et nous donne de parfaites raisons pour nous attendre à Dieu. En tant que semence, les promesses ne peuvent être changées. Elles peuvent donc produire leurs merveilleux résultats en tout temps et dans tout jardin. C'est l'affaire des chrétiens de démontrer effectivement au monde que les promesses de Dieu sont tout aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 2000 ans. Elles nous ont été données pour être connues, acceptées, revendiquées, et présentées à Dieu dans la prière. Elles doivent être semées et entretenues dans la prière. Dans Romains 4:12, Dieu parle des chrétiens comme étant ceux qui marchent dans les traces de la foi de notre père Abraham. Cela signifie que nous devrions considérer chaque promesse que Dieu nous fait exactement de la même manière qu'Abraham a considéré la promesse que Dieu lui avait faite. Se peut-il que Dieu soit moins réel aux hommes qui vivent sous notre dispensation actuelle du Saint-Esprit, qu'aux hommes qui vivaient dans l'ombre des choses à venir ? Jésus a dit à certains des Juifs de son époque « Vous ne recevez pas ma parole et ce que nous recevons la parole de Dieu ?» Je réponds qu'elle devrait avoir et conserver une place centrale dans nos pensées, nos souvenirs, notre conscience, et nos sentiments. Elle devrait avoir, et conserver en nous une place d'honneur, et mériter notre respect, notre foi, notre amour, et notre obéissance. Elle devrait avoir et conserver en nous une place de confiance, et une place d'autorité. Des millions de personnes chantent des cantiques proclamant leur confiance dans les promesses de Dieu. Mais la réalité, c'est que la plupart des promesses de Dieu ne sont jamais revendiquées par la plupart des membres de nos églises modernes. S'appuyer sur les promesses de Dieu signifie que l'on fait ce qu'il faut pour qu'elles s'accomplissent. Cela signifie que l'on saisit la bénédiction que chaque promesse révèle. Cela signifie que l'on prie la prière de la foi pour qu'elle s'accomplisse. Négliger les promesses reviendrait à renoncer aux bénédictions correspondantes si elles étaient déjà accomplies. C'est parce que ces promesses sont précieuses que nous devons les aimer et les estimer. Paul était heureux de dire « J'ai planté » si tous les cultivateurs traitaient leurs semences comme des millions de membres d'églises chrétiennes traitent aujourd'hui la semence incorruptible de Dieu, le monde entier mourrait de faim. Les possibilités de la semence. Les possibilités de la semence sont infinies. C'est pourquoi on devrait pouvoir dire de tous, comme au commencement ils reçurent de bon cœur la parole. Dans le texte biblique le plus simple, il y a un monde de bénédictions, de même que dans une petite semence il y a un arbre potentiel un million de fois plus grand que la semence. Si on laisse un seul verset de l'Écriture germer dans un cœur humain, il peut donner une moisson de milliers de conversions, sans compter la gloire éternelle qui suivra. Un seul grain de blé peut, après le temps nécessaire, couvrir un continent entier et nourrir des nations. Les fruits produits par la semence incorruptible sont bien plus nombreux et bien plus désirables que ceux produits par des semences matérielles, de même que les cieux sont bien plus grands que la terre. Seule une semence incorruptible peut produire des résultats éternels. La Bible dit que chaque semence produit une récolte selon son espèce. Chaque promesse, par la bénédiction qu'elle annonce, révèle la nature de la moisson qui sera obtenue lorsque la promesse sera accomplie. L'arrosage. Paul a dit « J'ai planté, Apollo a arrosé toute semence, et il en est de même dans le champ de Dieu, a besoin d'être arrosé. » Jésus dit, à propos de la semence qui est tombée sur le roc qu'elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité Luc 8:6. La semence n'a pas pu prendre racine. Pour que la semence croisse, le terrain doit être arrosé régulièrement. C'est parce qu'elles ne sont pas constamment arrosées que beaucoup de plantes de Dieu se dessèchent, au lieu de grandir. Paul écrit aux Thessaloniciens : Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. 2 Thessaloniciens 1:3. Il nous commande de croître en grâce. C'est pourquoi Dieu dit à chacun de ses petits champs : Soyez remplis de l'Esprit. Gardez le terrain humide de l'humidité, c'est l'eau, qui représente le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu agira parfaitement si nous sommes remplis de l'Esprit. Chacun des 176 versets du psaume 119 nous montre l'attitude de David envers la parole de Dieu. Il reconnaît joyeusement son devoir de garder les préceptes de Dieu avec diligence. Relisez attentivement ce psaume, et vous verrez tous les effets produits par la semence incorruptible de Dieu, lorsqu'elle est constamment arrosée. Il est aussi nécessaire d'arroser la semence que de la planter. Dieu ne peut pas faire grandir la semence si nous ne l'arrosons pas. Dieu fait grandir la semence. Puis Paul ajoute : Mais Dieu a fait croître. C'est pour cela que Dieu fait des promesses. Il fait toujours croître la semence quand elle est gardée dans une bonne terre, et constamment arrosée. La croissance de la semence se fait quand on l'arrose. Jésus dit que la semence porte alors du fruit. Elle porte toujours du fruit. L'intensité de tout désir sanctifié se mesure toujours au degré d'amour divin que l'on possède. Par conséquent, le désir de Dieu est bien plus grand que le nôtre, car son amour est bien plus grand que le nôtre. Sa bienveillance est si grande que ses yeux parcourent continuellement toute la terre pour chercher à faire du bien à tout ce dont le cœur lui permet de le faire. Ce que Dieu nous a promis nous appartient. La justice de Dieu exige que la semence croisse, lorsqu'elle a été plantée et arrosée. Jean dit qu'il est fidèle et juste. Le mot juste signifie que Dieu serait injuste s'il nous refusait ce qu'il a promis. Nous avons le droit de recevoir ce qu'il nous a promis. Il est absolument certain que Dieu fait croître toute semence qui a été plantée et arrosée. Nous pouvons tous l'expérimenter, pour notre joie présente et éternelle. Dieu est le meilleur agriculteur de tout l'univers, il n'échoue jamais. C'est aujourd'hui le temps de Dieu. Puisque l'œuvre de cette semence incorruptible est surnaturelle et que c'est Dieu seul qui fait croître la semence, elle produit souvent ses merveilleux résultats le jour même où elle est plantée. Les promesses de Dieu sont pour aujourd'hui. C'est toujours aujourd'hui le temps de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, Hébreux 4:7. Si vous refusez d'accepter aujourd'hui les promesses de Dieu, il se peut que demain vous ne soyez plus vivant. Les promesses de Dieu nous appartiennent aujourd'hui. Nous ne sommes pas sûrs d'en bénéficier à un autre moment. La seule manière d'être sûr de bénéficier des promesses de Dieu est d'accepter le temps de Dieu. Nous lisons dans 2 Corinthiens 6 2 « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Puisque le temps acceptable pour Dieu est maintenant, nous devons l'accepter comme notre temps. Il nous commande d'entendre sa voix aujourd'hui, en disant « N'endurcissez pas votre cœur. » Vous endurcissez votre cœur si vous attendez. Dans Marc 11 24, Jésus a dit « Croyez que vous l'avez reçu quand ? » Maintenant. Lorsque vous priez, voici comment parle la foi, avant même que l'exaucement soit manifesté. Père, je te remercie de ce que tu m'as exaucé quand vous ne pouvez ni voir ni sentir, dites c'est maintenant le temps de faire confiance au Seigneur, nous ne verrons rien se manifester tant que nous ne croirons pas que notre prière a été entendue et que nous ne persévérerons pas dans la foi. Dites à Dieu tu es en train d'agir maintenant en réponse à ma foi. Je compte sur ta fidélité. Votre problème est passé entre les mains de Dieu, au moment où vous le lui avez remis de tout votre cœur. Paul a dit que le Seigneur était capable de garder le dépôt qu'il lui avait confié. Mais Dieu ne nous a pas promis de garder un dépôt que nous ne lui avons pas confié. Voici donc la manière de recevoir le bénéfice de n'importe quelle promesse de Dieu. S'il est donc que Dieu fait à notre âme ou à notre corps n'était que des dons promis pour le futur. Nous devrions attendre que celui qui a fait la promesse l'accomplisse dans notre vie, et cette responsabilité lui incomberait. Mais toutes les bénédictions de Dieu sont des dons qu'il nous offre maintenant, tout en étant aussi des promesses. Ces dons doivent donc être acceptés, et cette responsabilité nous incombe. Dieu est donc dégagé de la responsabilité de tout échec éventuel. Les effets de l'arrosage de la semence. Quels effets ont été produits dans la vie de David par son attitude envers la parole de Dieu, et par le fait qu'il ait arrosé la semence? Ce simple berger, parce qu'il a arrosé la semence dans son cœur, est devenu plus sage que tous ceux qui l'ont enseigné. Par son attitude envers la parole de Dieu, il est devenu un homme selon le cœur de Dieu. Il est devenu le plus grand psalmiste du monde. Les psaumes qu'il a composés ont béni des millions de personnes au cours de tous les siècles qui ont suivi. Parce qu'il a arrosé la semence, il est devenu un écrivain divinement inspiré. De même que toute semence, après avoir été plantée, produit encore plus de semences, ainsi, les paroles de David dans les psaumes sont devenues à leur tour des semences incorruptibles de Dieu, qui ont germé pendant des siècles dans les cœurs des hommes du monde entier. Ces paroles ont inspiré des milliers de prédications. David avait compris que la méditation nous permet de mastiquer notre nourriture spirituelle, et permet à la douceur et aux vertus nutritives de la parole de Dieu de pénétrer dans notre cœur et notre vie. La méditation exerce un pouvoir de digestion, et transforme la parole en nourriture spirituelle. Paul dit que la parole de Dieu travaille puissamment en nous, et nous transforme de gloire en gloire. Par la puissance de Dieu. En gardant dans son cœur et dans sa vie les préceptes du Seigneur, David a compris très tôt beaucoup de choses, plus que ceux qui avaient vécu avant lui n'en avaient compris dans toute leur existence. David avait commencé sa vie comme berger. Mais, en méditant et en pratiquant les préceptes divins, il a acquis une telle sagesse et une telle connaissance qu'il est comparé dans 2 Samuel 14 17 à un ange de Dieu. Prêt à entendre le bien et le mal. Il a dit dans le psaume 119 « Ta parole me rend la vie ». La parole de Dieu, dans la mesure où elle était accomplie en lui, a rendu la vie à tout son être. Sa vie était pleine de louanges et d'actions de grâce. N'est-il pas bien meilleur d'être le chant de Dieu que le chant du diable? Les possibilités de la semence incorruptible sont infinies. Il n'y a rien de plus avantageux pour nous que d'être le champ du Seigneur. Seul Dieu peut connaître la moisson éternelle qu'il va produire en nous. Rappelez-vous, tout au long de votre vie chrétienne, que vous êtes le champ de Dieu, destiné à recevoir sa semence. Chapitre 9. Pourquoi certains ne sont-ils pas guéris? 22 raisons pour lesquelles certains ne sont pas guéris. Puisqu'il est si clairement révélé dans toutes les Écritures que notre Père Céleste veut nous guérir, pourquoi certains malades, qui recherchent la guérison, ne sont-ils pas guéris aujourd'hui? Beaucoup de gens honnêtes se posent sérieusement cette question. Il y a plusieurs réponses à cette question. Nous les exposerons brièvement, afin que ceux qui n'ont pas encore pu recevoir leur guérison puissent identifier leurs problèmes, et être glorieusement guéris. 1. Un enseignement insuffisant. Les gens ignorent la puissance de guérison de l'Évangile. Paul dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10:17. Beaucoup ont recherché auprès de Christ la guérison, mais avant d'avoir entendu ou connu suffisamment la parole de Dieu, de sorte que leur foi n'est pas ferme. Les membres de l'Église primitive étaient d'un seul cœur lorsqu'il s'agissait de proclamer l'Évangile. Ils annonçaient tout le conseil de Dieu. Nous avons constaté que Dieu produit la foi pour la guérison de la même manière qu'il produit la foi pour le salut, ou pour n'importe quelle autre bénédiction. Il faut que celui qui est dans le besoin connaisse dans les Écritures quelle est la volonté de Dieu à ce sujet. La main de la foi ne peut pas saisir une bénédiction si nous n'avons pas compris que cette dernière était la volonté de Dieu pour nous. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8:32. C'est la vérité de la parole écrite de Dieu qui nous libère, une vérité connue, comprise, acceptée, mise en pratique, maintenue et conservée fermement dans une foi vivante. Paul a dit que la parole de Dieu travaille puissamment en ceux qui croient. La parole de Dieu est cette semence précieuse et incorruptible, une semence puissante qui ne manque jamais de produire son œuvre, lorsqu'elle est connue, reçue et gardée dans une bonne terre, qui seule peut permettre à la semence de croître. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils cherchent à obtenir des résultats de la semence, ce que dit la parole de Dieu en matière de guérison, sans connaître exactement cette parole, sans lui accorder sa place, et sans la garder dans la bonne terre de leur cœur. La semence ne peut rien produire en nous, tant qu'elle n'est pas plantée en nous, c'est-à-dire tant que nous ne l'avons pas connue et acceptée. Avant de dire « Je suis l'Éternel qui te guérit », et avant de promettre de nous guérir de toutes nos maladies, Dieu a d'abord dit « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel et si tu observes toutes ses lois », cela signifie que nous devons être sérieux, pour connaître, comprendre et pratiquer ce que Dieu nous dit dans sa parole en matière de guérison. Nous devons connaître ce que Dieu nous offre, avant de l'attendre de lui. Nous devons d'abord connaître la volonté de Dieu avant de pouvoir croire qu'elle s'accomplira dans notre vie. Des multitudes de gens ne savent pas aujourd'hui que la guérison parfaite de leur corps est la pleine volonté de Dieu, telle qu'il la révèle dans sa parole écrite, la Bible. Le fait de connaître cela constitue le seul élément suffisant pour avoir une foi vivante. La foi de ceux qui cherchent la guérison ne peut pas rester ferme, si ceux-ci ne peuvent pas dire, lorsqu'ils sont mis à l'épreuve il est écrit, et s'ils ne peuvent pas citer à leur adversaire une promesse qui règle la question de la volonté de Dieu en la matière. Des multitudes de malades, qui avaient prié en vain pour leur guérison pendant des années, parce qu'ils avaient utilisé dans leur prière cette phrase mortelle pour la foi si c'est ta volonté, ont été par la suite guéris lorsqu'ils ont connu la vérité de la parole de Dieu, telle qu'elle est exposée dans ce livre. Non seulement les premiers chrétiens étaient d'un seul cœur pour enseigner ce sujet, mais ils étaient aussi d'un seul cœur pour élever leur voix vers le Seigneur, et lui demander des signes, des prodiges, et des guérisons. Ils priaient la prière de la foi, avant que les malades soient apportés dans les rues de Jérusalem. Ce n'était pas la foi d'un évangéliste solitaire, mais la foi de toute une foule de chrétiens, qui guérissaient tous les malades dans les rues de Jérusalem, après l'ascension de Jésus-Christ Actes 5:14-16. La majorité des pasteurs et des membres d'église aujourd'hui, par leur ignorance et leur tradition concernant le ministère de guérison, sont opposés à la guérison divine par la foi, telle qu'elle était prêchée et pratiquée dans l'Église primitive. Au lieu de prier d'un seul cœur pour que les malades soient guéris, comme le faisait l'Église primitive, l'Église actuelle, dans son ensemble, n'a pas accepté l'attitude de notre Seigneur envers la maladie, telle qu'elle est révélée dans les évangiles. De nos jours, l'opposition remplace souvent la prière unanime, l'incrédulité remplace la foi unanime, et la tiédeur remplace la plénitude du Saint-Esprit, car tous les chrétiens étaient alors remplis du Saint-Esprit. Je vous poserai donc une question : la raison pour laquelle certains ne sont pas guéris aujourd'hui ne vient-elle pas en grande partie de ceux qui sont incrédules dans l'Église, puisque nous sommes membres d'un même corps ? Je crois que vous répondrez oui à ma question. Si la plupart des gens croyaient que le temps de la régénération est aujourd'hui passé, comme on entend souvent dire que le temps des miracles est passé, combien il serait difficile de prêcher le salut, les chrétiens ne parviendraient pas à sauver des âmes, à moins de faire en sorte que les gens abandonnent leurs traditions et reviennent à la parole de Dieu. Inversement, supposez que l'on nous ait toujours enseigné la guérison divine, depuis notre enfance, d'une manière aussi claire que les autres doctrines de l'Évangile. Dans ce cas, je suis certain que très peu de gens auraient du mal à avoir la foi pour leur guérison. C'est la parole de Dieu qui produit la foi pour la guérison. Nous avons eu la joie de voir des centaines de malades guéris au moment même où ils écoutaient la vérité sur ce sujet. D'autres ont été guéris en lisant les documents que nous avons publiés, qui répondaient à leurs questions et qui ôtaient les obstacles qui bloquaient leur foi. 2. Certains ne sont pas guéris parce que l'Église n'est pas assez remplie du Saint-Esprit. Jésus avait prévu qu'après son départ, son ministère de guérison serait poursuivi par toute son Église, qui est son corps, et pas par quelques membres obscurs de ce corps. Il a dit : « Voici les signes qui accompagneront ceux l'Église qui auront cru. » Il n'a pas dit : « Celui qui croira dans les actes des apôtres », quand il est dit que tous les malades étaient guéris, après l'ascension de Christ, et après qu'il ait répandu le Saint-Esprit, ce n'était pas par la foi d'un évangéliste solitaire, mais par la foi de toute une Église remplie du Saint-Esprit. Certains n'aiment pas les réunions publiques de guérison des malades. Mais à cette époque, quand Dieu pouvait agir comme il le voulait, c'était des multitudes qui étaient guéries, directement dans les rues. Il voulait que sa compassion soit connue de tout le monde, pour que tous aient la foi. Dieu veut que ses œuvres soient accomplies aujourd'hui de la même manière qu'elles l'étaient alors, c'est-à-dire par toute l'Église, par des chrétiens qui sont tout remplis du Saint-Esprit, et qui le restent. Le plus grand nombre de conversions est toujours obtenu par l'onction du Saint-Esprit qui se déverse sur une Église qui est d'un seul cœur. C'est de cette manière que tous étaient guéris dans les rues de Jérusalem. Lorsque Dieu touche des foules entières, que ce soit pour le salut ou pour la guérison, c'est toujours par l'effusion de son Saint-Esprit, et au travers d'une Église remplie du Saint-Esprit, dans l'unité et la prière. Dieu avait promis de déverser son Esprit sur toute chair, et il est écrit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Une Église remplie du Saint-Esprit et qui prie produit une atmosphère spirituelle dans laquelle il est aisé pour Dieu d'accomplir ses œuvres, et difficile pour le diable d'intervenir. Parce que cette atmosphère est la présence du Saint-Esprit lui-même, et que le diable n'est pas de taille à lutter contre le Saint-Esprit manifesté. À l'époque de Finet, pendant les grands réveils, les pêcheurs étaient convaincus de pécher dès qu'ils descendaient du train, dans la localité où se passait le réveil. Finet raconte qu'il y avait une telle unité dans la prière, à un certain endroit, que tous les adultes qui habitaient dans une rue de plus de 5 km de long furent sauvés, sauf un. Voyant cela, tous les chrétiens se mirent à prier d'un seul cœur pour cet homme, qui fut sauvé à son tour. Il est vrai que certaines personnes sont sauvées et guéries ici et là, même quand il n'y a pas de réveil. Mais la méthode normale de Dieu est de conduire son peuple à prier d'une manière unanime pour qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit. Nous lisons dans Actes 1 14 tous d'un commun accord persévéré dans la prière. Combien une telle attitude est rare aujourd'hui, certaines théologies modernes encouragent les gens à s'accrocher à des bénédictions passées, au lieu de continuer à recevoir chaque jour la plénitude de ce qu'ils avaient reçu au début, lorsqu'il avait été rempli du Saint-Esprit. Si l'Église n'est pas remplie de l'Esprit, et ne reste pas remplie de l'Esprit, il est impossible que l'atmosphère spirituelle des réunions soit ce qu'elle devrait être, pour que Dieu ne soit pas limité ou empêché d'agir. Dans une telle atmosphère, produite par toute l'Église remplie de l'Esprit et priant à l'unisson pour que l'œuvre de Christ se fasse, la puissance de Dieu se manifeste pour guérir, comme au commencement. Dieu agit quand toute l'Église est remplie en permanence du même Esprit qui sauvait et guérissait les foules, à l'époque du Nouveau Testament. L'accomplissement des promesses divines produit les mêmes effets dans toutes les époques. Si vous voulez savoir comment le Saint-Esprit agit aujourd'hui, voyez simplement dans la Bible comment il agissait lorsqu'il conduisait pleinement l'Église. Le livre des Actes des Apôtres est le modèle qui nous montre comment le Saint-Esprit désire agir tout au long de sa dispensation actuelle. Les chrétiens décrits dans Actes 4 étaient tous remplis du Saint-Esprit, et persévéraient tous dans la prière pour que s'accomplissent des signes et des prodiges. De même, dans Jacques 5, il est commandé à tous les chrétiens de prier pour la guérison des malades, et de le faire aussi sérieusement qu'Élie, lorsqu'il a prié pour avoir la pluie. Lorsque cela a été fait ainsi, dans l'Église du début, la prière de la foi qui était prononcée par les anciens n'était que l'expression de la prière de toute l'Église. Jean dit, dans 1 Jean 5:14, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ceci était vécu par toute la foule des chrétiens du chapitre 4 des Actes. Chaque chrétien, aujourd'hui, a reçu l'ordre d'être rempli de l'Esprit, de prier pour l'effusion de l'Esprit, et de prier victorieusement pour la guérison des malades. Tout sacrificateur doit exercer son ministère. Parce que la majorité aujourd'hui n'a pas réussi à exercer ce ministère, cela pollue l'atmosphère des réunions. Les malades ont plus de mal à avoir la foi, et le Saint-Esprit est empêché d'agir. Le Saint d'Israël est limité par le fait que les chrétiens ne réussissent pas à vivre et à marcher par l'Esprit. Parce que le Seigneur ne peut agir parfaitement que si nous sommes remplis de l'Esprit. Au lieu d'être entouré d'une atmosphère de foi comme jadis, le malheureux malade est souvent confronté à l'opposition de sa propre famille, souvent de son propre pasteur et des membres de son assemblée. Il ne parvient donc pas à obtenir sa guérison, car il est trop faible dans ses pensées et dans son corps pour combattre seul. Ceux qui s'opposent à lui sont ceux-là même qui auraient dû prier avec foi pour sa guérison. Nous devons tous porter les fardeaux les uns des autres, et accomplir ainsi la loi de Christ. En général, ce sont ceux qui violent les conditions qui étaient remplies par l'Église primitive, qui sont les premiers à demander pourquoi certains ne sont pas guéris. Parce que ces incrédules font qu'il est impossible à l'Église d'être à l'unisson pour prier avec foi pour les malades. L'Église ne respecte plus le programme de Dieu. Aujourd'hui, un grand nombre de membres d'Église, par leur ignorance, s'opposent à ce que l'Église primitive obtenait par la prière. Ils ne suivent pas l'attitude du Seigneur devant la maladie, et ils n'ont pas rempli les conditions posées par Dieu pour la guérison des malades. Et ce sont ceux-là qui mettent l'accent sur des échecs dont ils sont en grande partie responsables. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir ceux qui devraient accomplir les œuvres de Christ exhorter les malades à éviter de se rendre là où justement les œuvres de Christ sont accomplies. Il vaudrait mieux qu'ils exhortent les gens à éviter de se rendre là où le baptême des enfants, la confirmation ou l'appartenance à une dénomination, ont remplacé la nouvelle naissance. 3. Certains ne sont pas guéris à cause de l'incrédulité générale. Jésus accomplissait partout des miracles et guérissait tous les malades. Pourtant, lorsqu'il est venu à Nazareth, sa propre ville, là où il avait grandi, il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Marc 6:5-6. Réfléchissez à cela. Jésus-Christ lui-même, pleinement oint du Saint-Esprit, fut empêché d'agir à cause de l'incrédulité générale. Est-il donc étrange que, dans certaines villes, des malades ne puissent pas être guéris aujourd'hui? Dieu n'a pas permis que le don des miracles se manifeste au travers de Jésus-Christ, dans une ville où l'incrédulité du peuple le faisait passer pour un menteur. Pourquoi le permettrait-il aujourd'hui? Paul, parmi les païens, a fait plus de miracles que Jésus dans sa propre vie, Acte 14. On a demandé aujourd'hui au peuple chrétien, en ce qui concerne la guérison, de croire à des traditions humaines, au lieu de croire à la claire parole de Dieu. À cause de cela, le monde entier a été transformé en véritable Nazareth d'incrédulité. Nous n'obtiendrons des résultats que si nous parvenons à nous débarrasser de la tradition des anciens, et à enseigner au peuple chrétien ce que les Écritures disent réellement en matière de guérison divine. Parce que nous avons fait cela, je peux vous dire avec assurance que Jésus-Christ, dans toutes les villes où nous avons conduit des campagnes de réveil, a opéré de bien plus grands miracles qu'il n'avait pu le faire à Nazareth, sa propre ville. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était nous qui faisions les miracles. Je veux parler de ce que Jésus-Christ a fait, partout où les gens ont pu être éclairés par notre ministère, pour connaître leurs privilèges en matière de guérison. Le fait que Christ ne pût faire aucun miracle à Nazareth ne prouve rien d'autre que l'incrédulité générale de la population. Je fais remarquer en passant que si des malades peuvent être guéris sans avoir la foi, comme l'enseignent certains, Jésus ne les a pas guéris à Nazareth. Car la Bible dit bien qu'il ne put faire là aucun miracle à cause de leur incrédulité. Si l'on dit que certains ne sont pas guéris parce que Christ ne veut pas guérir tous les malades, pourquoi ne dit-on pas alors que beaucoup de personnes ne sont pas sauvées parce que Christ ne veut pas sauver tous les pécheurs? Les évangiles rapportent qu'un jour, seule une femme, au milieu d'une grande foule, toucha Jésus en ayant la foi qu'elle serait guérie. Plus tard, ce sont des multitudes qui l'ont touché ainsi. Il fallait qu'elles soient éclairées et qu'elles aient la foi. Lorsque les 9 disciples n'ont pas pu délivrer le jeune épileptique mentionné dans les évangiles, les théologiens de l'époque auraient pu prendre le prétexte de cet échec pour dire « Voilà, nous avons maintenant la preuve que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de guérir tous les malades, mais le Père voulait que son fils soit guéri. » Le garçon lui-même voulait être guéri, et les disciples le voulaient aussi. En outre, ils avaient reçu du Seigneur l'ordre de chasser les démons et de guérir les malades. De nos jours, dans des circonstances similaires, certains diraient de même, devant un semblable échec, ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir un tel cas. Ils construiraient leur théologie à partir de cet échec, mais Jésus est descendu de la montagne et a délivré le garçon, prouvant ainsi que c'était la volonté de Dieu de guérir même ceux que ses envoyés spéciaux n'avaient pas réussi à guérir. Pourquoi ne pas construire notre théologie à partir de cette vérité? Lorsque le père du garçon dit à Jésus « Si tu peux quelque chose », Jésus refusa de prendre la responsabilité d'un échec. Il lui répondit « Si tu peux le croire », alors le père s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Bien entendu, il reçut l'aide qu'il avait réclamée, et obtint ce que les apôtres eux-mêmes n'avaient pas obtenu, car Jésus délivra le garçon, Marc 9, 14, 29. C'est un fait que, dans le ministère de guérison, nous sommes contraints de travailler au milieu d'une incrédulité presque universelle, alors que ceux qui prêchent seulement le salut travaillent au milieu d'une acceptation presque universelle de cette doctrine dans l'Église. Malgré cela, je pense que Dieu accorde des preuves de la guérison divine aussi nettes et convaincantes que les preuves de la nouvelle naissance, malgré un enseignement qui n'est pas aussi répandu. Quand je considère le manque d'enseignement sur la guérison divine, et l'attitude anti-biblique des églises concernant cette partie de l'évangile depuis longtemps oubliée, au lieu de m'étonner que certains ne soient pas guéris, je m'émerveille devant les bénédictions que Dieu accorde à ceux qui prient pour les malades. J'ai vu beaucoup de sourds muets guéris, alors qu'il n'y avait pratiquement personne dans l'auditoire pour croire à cette guérison. Des milliers de personnes ont été guéries par le Seigneur. Leur santé physique est actuellement aussi bonne que la santé spirituelle de la plupart des chrétiens. Pourquoi ne pas accorder autant de crédit à la bonne santé physique de ceux qui ont été guéris par le Seigneur, qu'à la bonne santé spirituelle de ceux qui combattent pourtant l'évangile de la guérison? Ceux qui ont été guéris par le Seigneur ne sont-ils pas une aussi bonne preuve de la guérison divine, que ceux qui marchent fidèlement avec le Seigneur sont une bonne preuve de la nouvelle naissance? La plupart des chrétiens n'ont entendu toute leur vie que la prédication de la guérison de l'âme. Il devrait donc avoir une excellente santé spirituelle. Or je constate que les chrétiens qui viennent juste d'entendre la prédication de la guérison du corps ont une excellente santé physique. La santé physique de ces chrétiens nouvellement éclairés se compare donc très favorablement à la santé spirituelle de chrétiens de longue date. Ceux qui sont passés par le baptême d'eau ont-ils tous eu leurs péchés effacés? Non, seuls ceux d'entre eux qui avaient la foi en Jésus ont eu leurs péchés effacés. L'huile d'onction pour la guérison des malades remplit une fonction semblable à celle qui est remplie par l'eau du baptême pour le pardon des péchés. Si quelqu'un me disait un tel a reçu l'onction d'huile, mais il n'a pas été guéri, je lui répondrais un tel a reçu le baptême d'eau, mais il n'a pas été sauvé, il n'a pas été guéri de la maladie du péché. Des milliers de personnes sont passées par le baptême sans être sauvées, car elles ne s'étaient pas repenties de leur péché. C'est une situation infiniment pire que de recevoir l'onction d'huile sans être guéri. D'autres disent: si un tel est guéri, je croirai à la guérison divine. Pourquoi donc ne pas dire aussi: si un tel est sauvé, je croirai au salut de Dieu? Nous ne devons pas croire en fonction des expériences des uns ou des autres, mais en fonction de Dieu et de sa parole, la Bible. Devant le fait que Dieu a déjà guéri des milliers de personnes, pourrions-nous lui dire en face: je ne croirai pas que tu veux guérir, à moins que tu ne guérisses aussi celui-là? Rejetteriez-vous la doctrine de la sanctification, sous prétexte que beaucoup de membres d'église ne sont pas sanctifiés, et malgré le fait que des milliers de chrétiens le soient? J'ai entendu un pasteur critiquer un évangéliste, en disant: un tel a reçu l'onction d'huile et la prière, mais il est mort sans être guéri. Mais ce même pasteur a baptisé une personne, l'a introduite dans l'église, en proclamant à tout le monde que son âme avait été guérie de la maladie du péché, et pourtant, cette personne est morte sans être sauvée, et son âme est perdue. C'est une situation bien pire que celle d'un chrétien malade qui meurt sans être guéri, et qui entre aussitôt dans la gloire. Je ne veux pas fonder ma prédication de la guérison divine sur les milliers de cas de guérison dont j'ai été personnellement témoin, bien que je sois convaincu que les preuves de la guérison soient aussi convaincantes que les preuves de la nouvelle naissance. Mais je continuerai à prêcher tout l'évangile, même si je ne devais plus jamais voir un seul homme sauvé ou guéri. Je suis décidé à fonder les doctrines que je prêche sur la parole éternelle de Dieu, et pas sur des expériences. Aucun prédicateur ne peut obtenir des résultats s'il ne prêche pas la parole de Dieu, car il ne peut pas alors produire la foi qui permet de saisir ce que Dieu offre. 60 000 églises des États-Unis n'ont pas enregistré une seule conversion pendant toute une année, mais je ne vais pas me saisir de ce fait pour combattre la doctrine du salut, ni toute autre doctrine de l'Évangile. Certains disent: nous croyons à la guérison divine, mais nous n'en faisons pas étalage. J'ai remarqué que ceux qui ne voulaient pas se réjouir avec ceux qui avaient réussi à obtenir une guérison de Christ, sont les premiers à faire étalage des échecs. Alors qu'il ne parle pas des réussites, je n'arrive pas à comprendre qu'un chrétien ne puisse pas se réjouir de voir un pauvre malade souffrant guéri par Jésus. Non seulement je me réjouis de voir ceux qui souffrent être guéris par Jésus-Christ, mais je suis heureux de parler à tout le monde de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur nous ordonne de faire connaître ses œuvres à tout le monde. Jésus a demandé au démoniaque de Gadara, qu'il venait de délivrer, d'aller proclamer la miséricorde du Seigneur à tous ceux de sa nation. Les Écritures nous disent qu'il est allé publier dans toute la Décapole comment le Seigneur avait eu pitié de lui. Au chapitre suivant, nous voyons que des multitudes de malades ont été par la suite guéris par le Seigneur dans la Décapole, et que ces multitudes glorifiaient le Dieu d'Israël. 4. La doctrine biblique de la guérison divine est transformée, ou carrément remplacée, par les traditions des hommes. Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens de son temps: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. Marc 7-9. Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs ont fait pire, car ils ont anéanti une partie de l'Évangile par leur tradition. A. Une de ces traditions prétend que Dieu est l'auteur de la maladie, et qu'il veut que certains de ses adorateurs soient malades. Je ne comprends absolument pas que quiconque puisse soutenir ce point de vue, face aux Écritures et au ministère de Christ, qui a guéri pendant 3 ans tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, ou, du moins, tous ceux qui sont venus à lui pour être guéris. Si la maladie est la volonté de Dieu pour ses adorateurs, tout médecin est donc un hors-la-loi, toute infirmière défie le Tout-Puissant, et tout hôpital est une maison de rébellion au lieu d'être une maison de miséricorde. Si Dieu veut que quelqu'un soit malade, c'est un péché pour cette personne que de seulement désirer être guéri, parce que nous devons aimer la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. B. Une autre tradition, qui a envoyé des milliers de personnes à une mort prématurée, après des années de terribles souffrances, enseigne que nous pouvons davantage glorifier Dieu en restant malade et en faisant preuve de patience, qu'en étant guéri par le Seigneur. C'est ainsi qu'un pasteur sincère mais non éclairé pourra s'agenouiller au chevet d'un malade souffrant de quelque maladie incurable, et prier ainsi: Seigneur, puisque dans ton amour et ta providence tu as jugé bon de donner cette maladie à notre chère sœur, donne-lui toute la force et la patience nécessaires pour supporter cette affliction. Il fera cette prière malgré l'ordre très clair qu'il a reçu dans Jacques 5,14, d'oindre d'huile tout malade dans l'église, et de prononcer la prière de la foi pour sa guérison. John Wesley a affirmé que c'était le seul moyen de guérison que le Seigneur avait laissé à l'Église, mais l'incrédulité l'a fait depuis longtemps tomber dans l'oubli. S'il est vrai, comme beaucoup l'enseignent, que l'on peut davantage glorifier Dieu en restant malade qu'en étant guéri, alors Jésus n'a pas hésité à priver son Père de toute la gloire qui pouvait lui revenir, en guérissant tous ceux qui le lui demandaient, au cours de son ministère terrestre. De même, son successeur, le Saint-Esprit, qui a été envoyé pour continuer et développer tout ce que Christ a commencé de faire et d'enseigner, n'a pas hésité non plus à priver Dieu le Père de toute la gloire qui pouvait lui revenir, en guérissant tous les malades dans les rues de Jérusalem Actes 5, 15-16. Et Paul, lui aussi, n'a pas hésité à priver Dieu de toute la gloire qui devait lui revenir en guérissant tous les malades de l'île de Malte. C'est la tradition la plus commune et la plus éculée est celle qui affirme que l'âge des miracles est passé. De toutes les traditions des anciens que je connaisse, c'est aujourd'hui la plus insensée, la plus illogique et la plus anti-biblique. Nous vivons actuellement dans la dispensation du Saint-Esprit. C'est lui seul qui accomplit les miracles de Dieu, c'est lui seul l'officier ministériel qui exécute la volonté du Père. C'est lui qui guérissait les multitudes de malades qui venaient à Christ pour être guéris. Tous les miracles accomplis avant le jour de la Pentecôte ont été accomplis par le Saint-Esprit, avant qu'il n'entre officiellement dans sa propre dispensation. L'époque dans laquelle nous vivons devait être, dans l'intention de notre Père Céleste, celle où devaient se produire les plus grands et les plus nombreux miracles, parce que c'est l'époque où le Saint-Esprit doit pleinement exercer son ministère. C'est au cours de notre époque que Dieu devait déverser son esprit sur toute chair, selon sa promesse. C'est au cours de notre époque que les 9 dons du Saint-Esprit, y compris les dons de foi, de guérison et de miracle, devaient être distribués à chacun, selon la volonté du Saint-Esprit. Jésus a déclaré que nous ferions les mêmes œuvres que lui, et même de plus grandes, par le Saint-Esprit, qui accomplit les miracles, et qui devait commencer sa dispensation après l'ascension du Seigneur Jésus. Qu'il est donc absurde de prétendre que le temps des miracles est aujourd'hui passé, qu'il est absurde d'enseigner que le Saint-Esprit a accompli des miracles à toute autre époque, sauf justement à celle qui se trouve être sa propre dispensation alors que nous vivons dans une meilleure dispensation, que nous avons un meilleur souverain sacrificateur, une meilleure alliance, de meilleures promesses, et que tout est en tout point meilleur pour nous que dans toute autre dispensation précédente. Certains parlent comme si notre époque n'était pas celle du Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule dispensation du Saint-Esprit, qui s'étend entre la première et la seconde venue de Jésus-Christ. Il est vrai que nous vivons au temps de l'Église de Laodicée, qui est un temps de tiédeur spirituelle. Au commencement de l'Église, elle était remplie du Saint-Esprit, alors que nous sommes dans une époque de tiédeur. Mais quant à moi, béni soit Dieu, il y en a beaucoup d'autres comme moi, je veux fonder ma prédication et mes œuvres sur la prédication et les œuvres de l'Église quand elle était remplie du Saint-Esprit, plutôt que sur la prédication et les œuvres d'une Église tiède. Je préfère travailler dur pour élever la véritable Église au niveau où elle se trouvait au premier siècle, époque où elle suivait le modèle biblique, Plutôt que m'efforcer de rabaisser le modèle biblique au niveau de l'Église tiède du XXe siècle d'ailleurs, cette tradition éculée dont nous venons de parler est contredite par le fait que Dieu n'a jamais cessé de faire des miracles, tout au long des siècles passés, comme l'histoire le prouve. D. Une autre tradition prétend que ce n'est pas la volonté de Dieu de guérir tous les malades. Nous avons déjà présenté tous les arguments concevables pour réfuter cette tradition. Je dirais simplement que si ce n'était pas la volonté de Dieu de guérir tous les malades, alors aucun d'entre eux ne pourrait avoir de raison suffisante pour fonder sa foi, à moins d'avoir reçu de Dieu une révélation spéciale lui disant qu'il fait partie des heureux élus. Si les promesses de guérison du Seigneur ne sont pas pour tous, cela veut dire que personne ne peut trouver la volonté de Dieu dans la Bible, pour son cas personnel. Si nous acceptions ces enseignements, cela signifierait qu'il nous faudrait fermer nos Bibles, et attendre directement nos révélations du Saint-Esprit, avant de pouvoir prier pour un seul malade, sous prétexte qu'il ne nous serait pas possible de connaître la volonté de Dieu par les Écritures. Cela reviendrait donc à enseigner qu'il nous faudrait être conduits par des révélations directes du Saint-Esprit, et non par la Bible, pour tout ce qui concerne la guérison divine. E. D'autres encore n'arrivent pas à être guéris parce qu'on leur a enseigné d'ajouter à leur prière cette phrase mortelle pour la foi si c'est ta volonté. Le Nouveau Testament ne rapporte qu'un seul cas de malade qui a prié de cette manière. C'était le lépreux, qui a dit à Jésus « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Cet homme ne pouvait pas prier d'une autre manière, parce qu'il ne connaissait pas encore la volonté de Dieu à son égard. Jésus n'a pas guéri ce lépreux avant d'avoir complété sa foi, et lui avoir dit que non seulement il pouvait le guérir, mais qu'il le voulait. Le « je le veux » de Jésus a annulé le « si » du lépreux. Il nous est impossible de prier avec foi tant que les « si » n'ont pas été enlevés de nos prières. La foi vivante consiste à être pleinement persuadé que Dieu fera ce qu'il a promis de faire, et personne ne peut être pleinement persuadé s'il ajoute à sa prière « Ainsi c'est ta volonté ». Dieu nous a révélé sa volonté dans ce domaine, par ses promesses. Quand nous disons « Si c'est ta volonté », lorsque nous prions pour la guérison, c'est comme si nous disions au Seigneur « Si c'est ta volonté de tenir tes promesses » F. Un autre enseignement non biblique, qui a envoyé des milliers de malades à une mort prématurée, et qui a empêché des milliers d'autres de recevoir leur guérison, affirme que l'écharde que Paul avait dans sa chair était une maladie physique. Je démontrerai au chapitre suivant que cet enseignement est entièrement faux, et que l'écharde de Paul était un ange de Satan, envoyé pour le souffleter, c'est-à-dire pour lui infliger toutes sortes de calamités et de persécutions, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, à cause de l'excellence des révélations qu'il avait reçues. Jésus a guéri tous les malades qui lui demandaient la guérison. Il nous a ainsi révélé quelle était la volonté de Dieu à ce sujet. Mais le Seigneur ne nous a jamais promis de nous délivrer des persécutions ni des soufflets. Vous avez vous-même pu vous rendre compte que Paul est l'un de ceux qui ont donné l'enseignement le plus abondant dans la Bible sur la guérison divine. G. Une autre tradition humaine, qui freine le ministère de guérison, affirme que Jésus a guéri les malades en tant que fils de Dieu, et pas en tant que fils de l'homme. Selon cette tradition, puisque nous ne sommes pas Christ, nous ne pouvons pas accomplir de telles œuvres aujourd'hui. Les Écritures enseignent que Jésus, le Fils de Dieu, s'est dépouillé lui-même pour devenir semblable en tout point à ses frères, si ce n'est pour ce qui concerne le péché. Il se définit lui-même comme Fils de l'homme environ 80 fois. En tant que Fils de l'homme, il a dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Cela n'était certainement pas vrai de lui avant qu'il ne devienne le Fils de l'homme, parce que toutes choses ont été faites par lui et pour lui. Nous avons déjà vu que Jésus accomplissait toutes ses œuvres en s'appuyant sur le Saint-Esprit. Dans Jean 14:12, il promet que nous pourrions continuer à faire les œuvres qu'il avait commencé à faire, et que nous pourrions même en faire de plus grandes encore. Nous pouvons faire ces œuvres en demandant au Seigneur de les faire. Le Saint-Esprit agit au travers de l'Église pour continuer les œuvres de Jésus-Christ. 5. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils violent certaines lois naturelles. Je rappelle que les lois naturelles ont été faites par Dieu, et qu'elles sont aussi divines que ces miracles. La nature démontre aussi les œuvres de Dieu, bien qu'elles ne soient pas miraculeuses. Certaines personnes ne respectent pas les lois naturelles, ne nourrissent pas convenablement leur corps, ou font des excès de table. Puis ces mêmes personnes vont ensuite demander à Dieu de guérir leur maladie d'estomac. Mais elles n'obtiennent aucune guérison si elles continuent à violer les lois de Dieu. Dieu se révèle comme Yahweh, je suis l'Éternel qui te guérit, mais il nous demande aussi de respecter ses lois naturelles pour rester en bonne santé. Il faut parfois que certains malades qui ignorent les rudiments de la diététique aillent voir une personne compétente pour être conseillé dans ce domaine. 6. Certains ne sont pas guéris à cause de l'incrédulité de l'ancien ou du pasteur qui prie pour eux. Les disciples de Christ avaient reçu de Jésus le pouvoir et l'ordre de guérir tous les malades. Pourtant, ils ne sont pas arrivés à guérir le jeune homme épileptique. Lorsque Jésus est descendu de la montagne, il a délivré le garçon, et a reproché à ses disciples leur incrédulité. 7. Certains ne sont pas guéris parce que leur maladie est produite par la présence d'un mauvais esprit, qui doit être chassé de leur corps. Jésus n'a pas guéri le jeune homme de l'épilepsie en tant que maladie, mais il a chassé un esprit d'épilepsie. Il a aussi chassé des esprits sourds et muets, et des esprits de cécité. Il a dit de ceux qui croiraient en mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons souvent vu des personnes guéries instantanément lorsque nous avons chassé les esprits qui leur causaient ces maladies. Nous agissions au nom de Jésus-Christ, en tant que représentant du Seigneur, et par son autorité. 8. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils conçoivent l'iniquité dans leur cœur. Ceux-là doivent apprendre à dire avec David « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé » Psaume 66:18. Dieu ne nous promet pas de détruire les œuvres de l'ennemi dans notre corps si nous nous accrochons encore aux œuvres de l'ennemi dans notre âme. Si nous gardons des péchés non confessés, cela nous empêche de recevoir la miséricorde de Dieu. Sa parole nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point ». Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Proverbe 28:13. 9. L'un des plus grands obstacles à la guérison est la tiédeur de l'Église, comme celle de Laodicée. Après avoir été glorifié, Christ a laissé à l'Église ce message « Puisses-tu être froid ou bouillant ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3:15-16. Le mieux pour nous est d'être bouillant pour Dieu. Ensuite, il vaut mieux être froid. Mais la tiédeur est fatale, car le Seigneur nous avertit qu'il vomira les tièdes. La tiédeur est une maladie bien plus grave que le cancer. C'est pourquoi Dieu veut guérir d'abord la tiédeur. Il a promis, et attend, de guérir ceux qui sont devenus tièdes, et de remplir nos cœurs de son amour. Dieu dit de l'homme dont le cœur est bouillant d'amour pour lui puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Psaume 91:14. À l'époque de l'Ancien Testament, la condition pour être guéri était de servir Dieu avec joie et allégresse de cœur. À notre époque de la grâce, nous ne devons certainement pas fixer une condition moins exigeante. 10. Parfois, Dieu permet que la maladie joue le rôle d'un garde-fou. Dieu s'en sert pour nous conduire au centre de sa volonté. Lorsqu'il a atteint son objectif, il enlève le garde-fou. Si Dieu enlevait le garde-fou trop tôt, beaucoup se précipiteraient loin de la volonté du Seigneur, et se priveraient de la joie d'accomplir le programme divin. Il n'est pas possible de prier la prière de la foi pour que ce garde-fou soit enlevé de la vie de ceux qui ne veulent pas être conduits au centre glorieux de la volonté de Dieu. 11. Certains ne reçoivent pas la guérison divine parce qu'ils ne veulent pas pardonner, ou parce qu'ils gardent de la rancune contre quelqu'un. Jésus a dit « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Marc 11:26. La première chose dont nous avons besoin, et la première chose que Dieu veut nous donner, est le pardon de nos péchés, mais Dieu ne peut pas nous pardonner si nous ne voulons pas pardonner aux autres. S'il ne peut pas nous pardonner, il ne peut certainement pas nous guérir. Nous avons bien souvent vu des malades guéris en un clin d'œil lorsqu'ils ont accepté de pardonner à ceux qui leur avaient fait du tort. 12. Certains n'ont pas la foi pour être guéris parce qu'ils ne veulent pas réparer les torts qu'ils ont causés. Celui qui a causé du tort à son prochain, de quelque manière que ce soit, doit lui demander pardon. Nous avons connu beaucoup de malades terriblement affligés, qui ont été guéris à l'instant où ils ont réparé les torts qu'ils avaient causés. 13. Certains manquent de détermination et de diligence en recherchant la guérison auprès de Dieu. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, Hébreux 11, 6. Mais nous devons le chercher avec diligence, c'est-à-dire avec sérieux et détermination. Nous avons connu des malades qui ont accepté de passer par au moins une douzaine d'opérations, sans qu'on leur promette réellement la guérison. En revanche, Dieu promet clairement la guérison à ceux qui la recherchent auprès de lui. Malgré cela, beaucoup de malades ne font pas preuve, dans leur recherche de la guérison divine, d'autant d'empressement que lorsqu'ils recherchent le secours des hommes. 14. Beaucoup ne sont pas guéris parce qu'ils veulent limiter Dieu à un miracle, par manque d'enseignement. Parce qu'ils ne sont pas guéris instantanément, certains perdent la foi. Pourtant, Dieu fait la différence entre un miracle et une guérison. Si tous les malades étaient guéris instantanément, il n'y aurait plus de guérison, il n'y aurait que des miracles. Quand il énumère les dons spirituels, Paul parle du don des guérisons, et il parle aussi du don des miracles. Christ n'a pu faire aucun miracle à Nazareth, à cause de l'incrédulité de la population, mais il a pourtant guéri là quelques malades. Le fait de confondre les miracles et les guérisons représente aujourd'hui un très sérieux. Page 155. Obstacle à la guérison, parce qu'il y a si peu d'enseignements clairs à ce sujet.